Prenez place, on va commencer le second sujet, le combat de l'agneau. Prenez place. Le combat de l'agneau. Début d'une nouvelle ère, quelque chose qui n'était pas et qui arrive par la grâce de Dieu. Le combat de l'agneau. Nous aurons à partager 4 points. On aura l'essentiel. Si on ne finit pas cela, on va le compléter samedi prochain. Mais on va prendre le maximum d'informations aujourd'hui. Je vous inviterai le samedi prochain de ramener ces feuilles-là aussi. Parce qu'on peut voir s'il y a d'autres choses qu'on n'a pas terminées. On va le voir la prochaine fois. Ce qu'on a partagé ce matin, c'était pour introduire cela. Maintenant, on va faire un pas de plus pour aller plus loin. Nous allons prier le Seigneur. Père, nous voulons te bénir pour la suite de ce programme. Nous te prions de nous guider, Seigneur, de nous donner ta parole. Rends-nous encore sensibles à ta voix et dispose-nous. Merci pour ta présence encore parmi nous, Seigneur. Et guide-nous parce que tu es le bon berger. Nous te rendons gloire, toi le Saint d'Israël. Béni sois-tu, Père, que le Saint-Esprit remplisse nos cœurs et nous éclaire. Gloire à toi, au nom de Jésus. Amen. Le combat de l'agneau, début du nouvel ère. Il y a le verset qui est là au-dessus, là, vous voyez, j'ai mis un verset de Matthieu, chapitre 12, verset 29. Jésus dit ceci, ou encore, comment quelqu'un peut-il pénétrer dans la maison d'un homme fort et s'emparer de ses biens s'il n'a pas? Tout d'abord, ligoter cet homme fort, c'est alors qu'il pillera sa maison. Qui est cet homme fort? Qui va s'emparer de la maison de l'homme fort? Quand Jésus parle de cette image-là, c'est lui-même qui va s'emparer de la maison de celui qui a pris l'espace depuis longtemps. J'ai mis là-bas une phrase là, l'espace, un espace déjà occupé. Occupé par un destructeur. L'espace est occupé par le destructeur. Satan a occupé l'espace bien avant. Il a commencé à occuper l'espace depuis Éden. Et il a continué jusqu'à aujourd'hui. Jésus est venu pour le déloger là où il a occupé l'espace. Du coup, quand il faut venir déloger un homme qui est grand, qui est fort dans sa maison, il faut être fort. Jésus dit qu'il faut d'abord le ligoter et puis piller sa maison, le faire sortir de la maison. L'image qu'il donne, c'est lui, le Christ qui viendra. Aucun homme ne peut tenir devant l'ennemi, aucun homme, aucune femme. Jésus est le seul qui devait venir. Depuis son arrivée, les choses prennent une autre tournure. Les démons ont peur. C'est pour cela qu'en lisant dans ce verset qu'on a lu ensemble dans Luc 4, où le démon dit, tu es venu pour nous détruire. Parce qu'il savait qu'ils étaient en paix. Depuis longtemps, depuis l'époque d'Abraham, jusqu'à la venue de Jésus, les démons étaient en paix. Ils n'étaient pas menacés. Dans la Bible, vous ne voyez nulle part, et c'est très peu qu'on chasse les démons. Élie a fait des miracles. Élisée a fait des mêmes aussi. Mais à part les deux prophètes, Élie et Élisée, tout est resté calme. Les démons étaient là, ils agissaient comme ils voulaient. Aucun prophète n'a chassé les démons, vous ne voyez pas. Et c'était terrible, depuis des siècles, combien les démons ont ravagé les vies, ont détruit des personnes. Mais Dieu a attendu que son fils arrive, qu'il va mettre fin à cette histoire. Mais on va voir Jésus qui va se manifester dans l'Ancien Testament pour révéler les choses qu'il sait qu'il va faire. Oui, l'ère du combat a commencé à la naissance de Jésus-Christ. Quand Jésus est arrivé, le combat commence. Les prophètes ont annoncé ce combat-là. Ils en ont parlé qu'il y aura quelque chose. Le Messie viendra. Voilà ce qu'il va faire. Mais quand le Messie arrive, le combat commence. Les démons ont peur. Pourquoi tu es venu pour détruire si tôt avant les temps? Pourquoi tu es venu? Nous avons la joie que Jésus soit venu sur cette terre. En tout cas, réjouissons-nous parce qu'il est venu pour nous sauver. C'est une grâce extraordinaire. S'il n'était pas venu, on serait des malheureux. Cette phrase, c'est Marie qui l'a dit, Marie, la sœur de Marthe. Par Marthe qui a dit ça au Seigneur. Même les deux ont dit ça. Quand Lazare est mort, ils ont envoyé quelqu'un chercher le Seigneur. Et Jésus n'est pas venu rapidement. Et quand le Christ est arrivé à Béthanie, Marthe a dit au Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Si tu étais là, il serait vivant. Et Marthe a dit ça, c'est du fond de son cœur, mais ta présence pouvait guérir mon frère. Chers amis, si Jésus n'était pas venu, on serait des malheureux vraiment. Du coup, que pour ça simplement, soyons dans la joie qu'il est venu pour nous. L'ennemi est venu pour nous détruire, pour nous faire du mal de tout niveau. Mais le Christ est venu pour nous libérer. Quelle joie, quelle grâce d'avoir dans notre vie le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, de le connaître. Et Jésus dit que l'homme fort, il est venu pour le ligoter et détruire sa maison. Oui, c'est ce que Jésus fait, il l'a fait à la croix. L'espace est occupé. Il y a des gens dont l'espace est occupé, mais Jésus veut entrer dedans. Nous aussi, nos vies sont occupées par les forces du mal. Satan a occupé nos cœurs et à l'époque. Mais Jésus est tenté, il a délogé. Il est venu notre Seigneur à nous. C'est pour ça qu'il réjouissons-nous. Parce que notre vie, notre corps est maintenant le temple du Saint-Esprit. Il n'est plus l'endroit où Satan faisait n'importe quoi. Nous appartenons à Jésus-Christ maintenant. Nous appartenons au Seigneur. Et réjouissons-nous. Mais le combat est là. Depuis que nous avons quitté l'endroit, nous sommes venus de l'autre côté, Satan nous cherche. Quand nous sommes ses cibles, nous qui croyons en Jésus-Christ. Alors, le combat de l'agneau, ce n'est pas notre combat à nous, c'est ce combat à lui. Mais il nous fait entrer dans ce combat. Ce n'est pas notre combat. Ce combat, c'est le combat de Jésus-Christ lui-même. Mais son église, qui est son épouse, il l'a fait entrer dans ce combat. Nous combattons avec Jésus-Christ. C'est lui qui marche devant nous, nous sommes derrière lui. Ce combat est déjà gagné à la croix. Souvent, quand nous échouons, c'est nous-mêmes qui voulons échouer. Avec lui, tout est déjà accompli à la croix. Nous combattons dans la victoire et non dans l'échec. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, le verset sur votre feuille, c'est lui qui s'adonne au péché appartient au diable, car le diable pêche dès le commencement. La suite de la phrase, « Or le Fils de l'homme est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. » Quand Jésus arrive sur terre, pour faire quoi? La Bible dit, « Pour détruire les œuvres du diable. » Si vous êtes en face de l'œuvre du diable, Jésus est venu pour ça, pour détruire les œuvres du diable. Quelle que soit la forme de l'œuvre du diable, Jésus est venu pour le détruire. C'est son combat à lui. Du coup, en face des choses, des forces de ténèbres, on n'a pas à négocier. Ce que de Satan doivent être détruites parce que Jésus est venu pour ça. Il y a une phrase qui est là, je l'écris en gras. L'humanité attendait la venue du Fils de Dieu pour vivre la délivrance. Oui, l'humanité attendait que Jésus arrive pour nous libérer. Voyez même, le jour de sa naissance, les mages sont venus dire que nous cherchons le roi d'Israël qui est né à Bethléem, ici en Israël. Et Hérode n'était pas content du tout. À la naissance de Jésus, les enfants sont morts. Lui, il est né, les gens commencent à mourir. Satan savait que celui qui est arrivé est terrible, c'est le sauveur du monde. Regardez à la naissance, Jésus naît et Hérode tue les enfants. Regardez à sa mort à la croix, Jésus est en train de mourir à la croix et ressusciter et mourir à la croix, les tombeaux sont ouverts. Comprenez bien l'image. Il meurt sur la croix, les tombeaux sont ouverts, les gens sortent du tombeau vivants. Sa mort, c'est la vie. Il est mort pour que nous vivons. Et Satan le sait. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur un peu? Nous savons qu'il est là. Et il nous regarde. Et il te regarde. Et il te connaît. Jésus est ici. On ne sait pas, est-ce qu'il est assis à côté de Clément ou à côté de... Je ne sais pas. Mais Jésus est là. Le Seigneur est là. Vraiment, il est là. Croyez-le. Il s'appelle Emmanuel. Il est là. J'ai prêché à l'église de Corbeil. Pendant que j'ai prêché à cette église-là, et j'ai porté la parole, une dame était au fond, et regardait non pas moi, il y avait un ange, il y avait un ange là-bas, et qui était là. Ils avaient des épées flamboyants. Moi, je ne savais pas du tout. Moi, j'ai prêché, puis j'ai terminé. Il m'a dit, « Qui es-tu ?» Je dis, « Mais je suis africain. Je viens du Congo. » Il dit, « Mais non. Mais pourquoi ces gens sont là-bas? Ils étaient là tout le temps de la prédication. Ils avaient une épée qui était flamboyante, tout feu. » J'ai dit, « Mais parce qu'on parle de la parole de Dieu. » Le Christ est ici. Il a voulu que tu viennes ici, non pas au hasard. Il a voulu que tu sois là pour que tu entendes ce qui est partagé aujourd'hui. Tu es un enfant de Dieu, Jésus t'aime beaucoup. Il veut que tu saches ces choses pour dire aussi aux autres ce que tu vas comprendre aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, au Nouveau Testament, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Dans l'Ancien Testament, Jésus a commencé à agir déjà. Souvent, on l'appelait l'ange de l'Éternel. Il y a trois événements. Premier événement, c'est l'histoire de Canaan, de la conquête de Canaan. Jésus a dit, Dieu a dit à Abraham, je te donnerai la terre promise Canaan. Il lui a dit, je donnerai. Il n'a pas dit, allez conquérir. Il n'a pas dit ça au début. Genèse 12, va, je donnerai la terre promise qui va habiter ton peuple. Il n'a pas dit, va à la conquête. Abraham sait qu'ils vont avoir une terre qui s'appelle Canaan, qu'ils vont habiter. Mais à la veille, quand ils sont arrivés devant Canaan, il fallait qu'un homme le fasse entrer, c'est Josué. Josué 5, versets 13 à 15. Pour conquérir maintenant Canaan, au lieu d'entrer comme on a dans un magasin, mais il faut aller à la conquête, conquérir la promesse. C'est drôle. Il a promis à Abraham, maintenant c'est la conquête. Les promesses de Dieu, il faut les conquérir. Si tu ne pries pas, comment ça va se réaliser? Il te promet, il faut prier maintenant. Et Dieu a promis, maintenant devant Canaan, il faut qu'il entre. Or Canaan est déjà occupé. Il faut prendre cette ville-là. Comment faire? Ils vont à la conquête. Il s'est passé dans Josué 5, un homme était debout devant Josué. Il avait une épée avec lui. Josué dit, mais qui es-tu? Si vous lisez Josué 5, on n'a pas le temps de lire ça. Et cet homme a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. C'était qui? C'était Jésus, l'ange de l'Éternel. Il lui a dit, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est saint. C'est la même parole que Dieu a dit à Abraham, à Moïse, dans Exode 3. Même parole, ôte tes sandales. Si l'ange était qu'un ange comme les autres, il n'avait pas dit ça. C'est l'ange là, c'est Dieu lui-même qui était là. C'est Jésus qui était là, l'ange de l'Éternel. Alors Jésus va marcher devant Israël pour conquérir Canaan. Jésus marche devant nous pour réaliser les promesses qu'il a faites pour nous. Nous ne combattons pas seuls, nous combattons avec lui et en lui. Nous marchons avec lui. L'Église n'est pas seule, elle est avec lui. Ici, Jésus commence à aller à la conquête déjà de l'Ancien Testament. Deuxième événement, vous connaissez un jeune homme qui s'appelle Gédéon. Il est tout fragile. Et dans sa famille, c'est une petite famille. Mais cette famille était menacée par un peuple qui voulait prendre leur récolte, les Madianites. Or, un jour, l'ange qui arrive, il était assis sur l'air là de la ville, à côté de Térébinthe, un endroit où on gardait la récolte. L'ange arrive, il s'assoit, il regarde Gédéon. Il appelle vaillant héros. C'était Jésus, l'ange de l'Éternel. Et puis, Jésus dit, et je nous dis, mais moi, je suis une toute petite personne dans cette petite famille, cette tribu, je ne suis pas si fort. Il dit, tu t'appelles maintenant vaillant héros. Il lui change le nom. Il n'a pas donné la puissance, non. Il lui a changé un nom, il a donné un nouveau nom. Maintenant, par ce nom nouveau, Gédéon va agir par ça, il va détruire les Madianites. C'est la même chose. Nous avons reçu un nouveau nom à Jésus-Christ. Nous sommes des enfants de Dieu. Par ce nom, nous pouvons maintenant conquérir et détruire l'ennemi. L'identité est la clé du départ pour aller à la conquête. Ce que nous sommes, c'est pour ça qu'on va agir. Parce qu'on est chrétien, nous pouvons détruire les œuvres des ténèbres. Gédéon a reçu un nouveau nom, voyant guerrier, voyant héros. Mais lui-même, il sait ça, mais je suis rien. Mais quand il a pris conscience de ce nom qu'il a reçu, il était différent. Si tu n'es pas conscient de ce que tu es, tu seras différent. Chers amis, la grâce, la délivrance n'est pas donnée qu'au pasteur, est donnée à tout le monde. Si tu crois que tu es enfant de Dieu, tu le réalises dans ta vie, que tu appartiens à Jésus-Christ, que ta vie, Jésus est en toi, tu veux prier pour les gens et seront délivrés. Cela est très possible. L'identité. Ici, le Seigneur donne un nom nouveau. C'est comme une autre identité pour Gédéon. Pour agir par cette identité-là. On agit par le nouveau nom que Dieu nous a donné. Vous connaissez l'histoire des sept fils de Sceva dans Actes des Apôtres. Ces gens-là, ils ont voulu chasser les démons par le Christ que Paul prêche. Ils ont trouvé un homme qui est possédé. Ils ont dit, bon, nous chassons les démons par le nom de Jésus que Paul prêche. Vous savez que ces démons ont dit, mais moi je connais Paul. Mais vous, qui êtes-vous? La Bible dit que ces démons, cet homme qui était possédé, il les a tapés sérieusement. Ils sont partis tout nus. C'était bizarre. Parce que le démon sait que je connais Paul. Je connais Jésus, mais vous, qui êtes-vous? Vous n'êtes rien par rapport à moi. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous pouvons ordonner des choses, ça peut se réaliser. Tu ordonnes par la foi, ça va s'accomplir. Parce que tu es enfant de Dieu. Tu as la puissance du Seigneur, tu peux le faire. Troisième événement, vous savez, ce qui s'est passé, quelque chose d'extraordinaire. Sur la croix de Golgotha, le Christ nous donne le pouvoir, c'est le psaume 110. La Bible dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, je ferai de tes ennemis ton marchepied. Psaume 110. Le Père déclare qu'il y aura des ennemis que Jésus va écraser, avant même le Nouveau Testament. Tous les ennemis de Jésus sont sous ses pieds. Jésus a vaincu toutes les forces du mal. Amen. Nous sommes vainqueurs avec Jésus. Les démons ne peuvent rien sur nous. Ne peuvent rien du tout. Mais souvent, on a peur. Souvent, on a peur. Nous avons la puissance de Dieu en nous. Et il nous a donné cette force pour faire quelque chose. Et nous pouvons le faire. Ça, c'est l'Ancien Testament. Trois événements qui décrit que Jésus est là. Il est venu pour combattre. Deuxième point, c'est ce que le Christ déclare de lui-même. Il dit de lui-même. Le verset est là, Matthieu 28, verset 18. Jésus s'approcha et leur parla, tout pouvoir m'a été donné. Jésus a tout pouvoir. Deuxième chose, il dit aussi, mon Père a mis toutes choses entre mes mains. Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et tout est entre ses mains. Jésus a tout dans ses mains. Si nous sommes unis à lui, on peut vivre toutes choses avec lui. Tout avec lui. Jésus est puissant. C'est son combat à lui. Il est venu pour nous libérer. Alors, la croix de Golgotha. Jésus-Christ est vainqueur. La Bible dit dans Colossiens 2, verset 15, le verset est là. Il a désarmé toute autorité et tout pouvoir. Il les a, en le donnant publiquement en spectacle. Quand il les a entraînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Il a désarmé l'ennemi. Chers amis, Jésus a désarmé les démons. Est-ce que vous croyez à ça? Ils n'ont plus la force. Il les a désarmés. Vous savez, les esprits impliquants, quand ils agissent, ils viennent essayer. Ils savent qu'ils ne peuvent rien. Mais souvent, ils réussissent. Parce que notre ignorance et nos doutes les encouragent. Quand nous doutons, quand nous négligeons des choses, quand nous sommes aveugles, et ils profitent. Vous savez, le combat que nous menons est un combat déjà gagné. Nous agissons, nous combattons en victoire. Et il combat en échec déjà. Quand Satan attaque l'Église, il sait qu'il combat déjà, déjà en échec. Il n'a rien, il a déjà échoué. Mais pourquoi il vient attaquer? Parce qu'il comprend que les chrétiens sont souvent distraits et souvent ignorants. Lui, il profite pour détruire. Mais il sait que ce combat, Jésus a déjà vaincu. Il n'a pas de pouvoir sur nous. Il sait qu'il a vaincu, on l'a écrasé, il sait. À la croix, Jésus l'a dépouillé complètement, il a désarmé ses forces. Mais pourquoi il réussit? Pourquoi il réussit à nous faire du mal? C'est nous. C'est nous-mêmes. C'est nous. Quand nous avons des pensées négatives, quand nous avons des pensées mauvaises, quand nous mettons des péchés dans notre vie, Satan en profite beaucoup. Il nous affaiblit. Quand la sainteté est mise en cause, Satan en profite beaucoup. Quand nous parlons mal, quand nous pensons mal, Satan en profite beaucoup et il nous fait du mal aussi. Il cherche une porte ouverte pour entrer. Il cherche une porte ouverte. Il cherche pour entrer. Souvent, nous lui ouvrons la porte, nous-mêmes. On ouvre la porte et le fait rentrer et il nous détruit. Fermons toutes les portes possibles pour qu'il n'entre pas. Fermons toutes les portes possibles que nous connaissons. Pour qu'il n'entre pas dans ta propre vie, dans ta famille, dans ton foyer et dans ton église. Un couple se chamaillait toujours, il s'est disputé. Alors Dieu a voulu mettre fin à ces disputes inutiles qui ne servent à rien. Il a montré à la femme une maison, une belle maison, dont la porte était bien fermée, mais il n'y avait pas la serrure. Une fois, deux fois, trois fois, cette femme m'appelle au téléphone, dit, parce que j'ai une vision qui se répète chaque fois, on a une belle maison, mais la porte n'a pas de serrure. Je lui ai dit, mais la porte n'est pas la serrure, tout le monde peut entrer, non? Donc la maison n'est pas protégée. Il m'a dit, mais nous, notre maison, on la ferme bien. Il m'a dit, mais ce n'est pas la maison physique, c'est votre vie conjugale. L'homme et la femme forment une maison. Il n'y a pas de serrure, il faut mettre la serrure. Et la femme qui s'est dit, mais pasteur, mais on va bien écouter, ça ne va pas entre ton mari. Il faut mettre la clé. La même vision, quatrième fois. Après, il m'a dit, ça se répète. Alors, ils sont venus, on a parlé ensemble. Il y avait des problèmes sérieux entre les deux. On a prié pour eux. On a prié. Dieu a fait grâce. Bon, tout est terminé. La nuit suivante, elle a vu la même vision avec une clé qui brillait, qui était placée à la porte. La porte était fermée. Chers amis, n'ouvrez pas la porte. Parfois, ta femme te parle bizarrement pour rien du tout. Ton mari se met en colère pour rien du tout. Fermez la porte. N'ouvrez pas. N'ouvrez pas. On a ouvert des portes à l'église où Satan tentait pour nous faire du mal. On ne s'aime pas, on se critique. Nous ouvrons largement la porte. Il entre pour nous faire du mal. Ne sois pas l'homme ou la femme par qui Satan va entrer pour détruire l'église. Ne sois pas celui. Sois celui qui ferme la porte. Vous savez, quand on fait un digue quelque part pour empêcher que l'eau puisse déborder, on met parfois des choses. On veut que la digue ne puisse pas lâcher pour que l'eau va entrer. Tu es comme cette digue qui va empêcher que le mal n'entre pas dans ton église. Sois celui qui est ferme dans ta position, que le mal n'entre pas. Tiens ferme. Tu peux le faire. Par toi, le diable sera confondu. Par toi qui tremble. Quand il te voit, il dit, c'est Clément, j'ai peur de lui. Pas c'est Clément, qui tremble quand il nous voit. Parfois, il tremble, il dit, c'est lui-là. Parfois, il se moque de nous. Il y avait une délivrance où ma femme était avec les autres frères. Un garçon était possédé parce qu'il est fou. C'est à Kinshasa. Cet homme, maintenant, il est en Belgique. Il est très bien. Cette délivrance m'a beaucoup marqué. Mon épouse est partie, et elle est partie dans cette délivrance. Pendant la, ils étaient plus de 10 personnes. Et la famille était fatiguée parce qu'ils ont tout fait pour lui à l'hôpital, ça ne marche pas. Il était souvent enchaîné, comme dans Marc chapitre 5. Et du coup, un frère dit, on peut oser prier pour lui, Dieu peut le libérer. Il dit, bon, on peut oser. Vous savez, étant jeune converti, on est tout fait, tout flamme. Bon, alors ils sont partis prier pour ce jeune homme-là. Ils sont réunis, ils ont fait un jeûne, et puis ils sont partis prier pour lui. Pendant qu'ils commençaient à prier, ces démons commençaient à parler. Qui êtes-vous? Ils se sont regardés. Qui êtes-vous? Le démon commençait à dire, il disait, mais je vous connais. Il cite même le nom de ceux qui. Mais toi, je te connais, tu es un impudique, toi. Mais toi, tu n'es pas n'importe quoi. Je n'ai pas peur de toi. Et il dit des choses vraies. Le frère qui coordonnait la prière dit, on arrête la prière. Retournons-nous un peu. Qui fait des bêtises ici? L'un a dit, moi, l'impudicité, c'est moi, je pars. Ils sont partis. Qui est prêt pour rester? Ils étaient 10, ils sont restés 4. Alors ma femme a dit, c'est chaud, 4 personnes, qu'est-ce qu'on va faire? Les 4 sont partis maintenant. Et pendant qu'ils prient, quand ils sont arrivés, quand ils ont commencé à chanter, les démons disaient, j'ai peur, alors laissez-moi tranquille. Ils ont, parce qu'il avait mené les gens qui sont là, les 4, étaient remplis du Saint-Esprit. Chers amis, tu peux faire trembler le diable avec Jésus. Mais dites amen quand même, non? Si tu vis dans le péché, si tu vas dans le péché, tu ne lui feras pas peur. Pas du tout. Il va se moquer de toi. Parce que tu fais ce que lui veut. Tu critiques les gens dans l'impudicité, les pensées mauvaises, il se moque de toi. Car le péché, c'est lui. Mais quand tu marches dans la sainteté, tu vas lui faire peur. Quand tu viens dans une réunion de prière, parce que tu aimes la sainteté, il va trembler. Ah, c'est qui ça? C'est lui-là qui arrive. Voilà. Il a peur de toi. Fais attention à ta propre vie. Si tu gardes le péché en toi, Satan se moque de toi. Il te connaît. Hein? Il te connaît bien. Il te connaît bien. Il va se moquer de toi. Il dit, mais tu ne me fais même pas peur. Parce que je te connais. Tu vis dans le péché comme moi dans le péché. Tu es pour moi. Oh, tu es fils de Dieu, fille de Dieu. Alors lève-toi dans la sainteté. Oppose-toi à l'ennemi. Oppose-toi. La croix nous donne la victoire, nous donne la force pour vaincre l'ennemi. Il ne va pas se moquer de nous, pas du tout, mais qu'il puisse tenir ferme. Jésus l'a désarmé et nous sommes armés, nous, les chrétiens, pour les menacer. Regarde bien ta vie. S'il y a un péché quelque part, change ça, enlève ça. Répands-toi de cela, sinon le Satan va se moquer de toi. Colossiens 1:13, il nous a arrachés au pouvoir de ténèbres et nous a fait passer du royaume de son fils bien-aimé. Il nous a arrachés par la force pour que nous puissions vivre la liberté. Nous sommes libres. Quand tu arrives à l'église, quand tu vas à des réunions, il faut faire trembler les forces de ténèbres parce que toi tu es arrivé. Ça n'a rien à voir avec les pasteurs, rien à voir avec les responsables. Tout chrétien peut le faire. Vivons la sainteté. Vivons la pureté. Résistons à l'ennemi par notre vie chrétienne. Soyons forts. Ne jouons pas avec le péché. C'est un poison qui tue. Qui tue vraiment à petit feu et qui va t'affaiblir. D'où viennent tes forces? D'où viennent tes forces? C'est dans la sainteté avec Jésus-Christ. C'est en lui que nous sommes forts. Mais le péché nous affaiblit. Nous affaiblit de plus en plus. L'Église est un peuple de Dieu, une nation, un corps, et puis l'épouse. Étant aimé par le Seigneur, choisi avant la fondation du monde, Dieu a préparé déjà pour nous la grâce de Dieu. Deuxième point, la révélation dans la maison du collecteur d'impôts. Vous connaissez l'histoire des Zachée. Jésus dit, je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Depuis le ciel, le Seigneur voulait chercher et sauver Zachée. Il est venu que pour lui à Jéricho. Il entre à Jéricho, il traverse les gens, il les voit, Zachée descend. J'ai besoin de toi. Il est venu le chercher chez lui à Jéricho. C'était un fils de Dieu. Celui-ci est fils d'Abraham, comme Jésus va dire. Celui que Satan tenait lié pendant longtemps dans le vol des impôts, il sera maintenant fils de Dieu. Chers amis, Jésus est venu pour nous chercher là où nous étions, pour nous sauver, pour nous libérer. Zachée n'a pas dit, oh Jésus, alors viens, viens chez moi me sauver. Non, il n'a pas appelé. Mais avant que Dieu crée le monde, il connaissait Zachée. Je veux le sauver. Imaginez-vous, il quitte de loin, il passe tous ces villages-là jusqu'à Jéricho pour un homme. Quelle grâce de chercher, de sauver, de libérer l'emprise de Satan. C'est nous, l'Église. Il est venu nous chercher, nous sauver. Pourquoi continuer à pécher? Pourquoi continuer à laisser le mal nous détruire? Dans le combat spirituel, il faut mettre en avant la sainteté. Dans ce combat, si tu joues avec le péché, tu ne vas pas vaincre. Tu ne vas pas. N'ose pas chasser un démon quand ça ne va pas dans ta vie. N'ose pas. Tu seras attaqué par les forces du mal. N'ose pas. La sainteté est comme un mur. On en parlera le week-end prochain. C'est un mur puissant. Satan ne peut pas traverser ça. Tu peux crier mille fois au nom de Jésus, ça ne peut rien faire. Si des péchés dans ta vie, ça ne fera rien. Mais si la sainteté est là, l'ennemi aura peur. Et tu seras libéré complètement. J'aime toujours faire la délivrance avec deux ou trois personnes. J'aime ça parce qu'ensemble, on forme une équipe. Mais parfois, Dieu me surprend. Je suis tout seul. Parfois, tout seul, j'ai prié pour quelqu'un. La personne tombe. Qu'est-ce que je veux faire? Une fois, j'avais tremblé. Oh là là, tout seul, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce qu'il faut appeler les frères? J'étais tout seul. La personne qui est tombée avait une grande taille, qui tombe par terre. Mais comment je vais faire maintenant? Je me dis, bon Seigneur Jésus, tu es là. Et au fond de mon cœur, n'aie pas peur. Si devant le démon, tu commences à dire que Seigneur, j'ai péché contre toi, pardonne-moi. C'est un échec. On ne confesse pas pendant la délivrance. Non. Les démons, la personne tombe par terre, imaginez-vous, tu as un rendez-vous pastoral. Tombe par terre. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à confesser le péché. Prendre le téléphone, appeler le conseil d'église, venez vite ici. Pas du tout, tu es là, agis maintenant. J'étais en face des personnes qui tombent par terre. Comment je vais faire maintenant? Simplement par la grâce du Seigneur, fais quelque chose. J'ai commencé à prier pour la personne, à prier pour elle, à prier pour elle, à invoquer le nom de Jésus-Christ. Et Dieu l'a libéré. J'étais dans la joie parce qu'il l'a libéré. Et j'ai appris sainteté tous les jours. Amen. On ne sait pas quand ça va arriver. Mais si j'avais eu peur, cette personne ne serait pas délivrée. Je lui parlais de Jésus-Christ, elle a commencé à trembler. Juste avant la prière. Je lui dis, mais non, j'explique. Non, elle commence à trembler. La Bible commence à trembler de ses mains. Je lui dis, bon, laisse la Bible, on va prier pour toi. Et tout d'un coup, elle commence à se manifester. Et à la fin, c'est des mots qui avaient dit à la fin, oui, je suis fatigué, je vais partir. Il me dit, oui, allez-y. Elle me pose la question, où est-ce que je vais aller? Une très bonne question. Je lui dis, simple, tu veux être dans les lieux arides, tout droit là-bas. Pas nulle part ailleurs, juste là. Et quand je dis ça par la prière, et il est parti. Il faut voir comment la personne criait tellement forte. J'ai dit merci Seigneur parce que la personne est libérée. Chers amis, la sainteté était mûre. Et le malin n'aura pas sur toi un pouvoir. Souvent nous, quand on dit que c'est la Sainte Seine dimanche prochain, on se purifie avant le dimanche parce qu'il faut la Sainte Seine. Oh, c'est pas bon, hein? Parfois, devant la table de Sainte-Seine, on se purifie. Ce n'est pas bon du tout. Après la Sainte-Seine, on répand nos histoires. C'est mauvais. C'est tout le temps notre vie dans la sainteté. Tout le temps, tout le temps. Lutter tout le temps, c'est un combat de tous les jours. Un homme disait, j'ai fait la guerre dans ce monde ici. Il était un ancien militaire. Mais depuis ma conversion, il y a un combat qui ne finit pas, la guerre spirituelle. Chaque matin dans mon cœur, il y a un combat tous les jours. Il faut prendre des décisions de pureté devant le Seigneur. C'est un combat tout le temps, chers amis. La guerre dans notre âme, faire le bien, prendre des bonnes décisions. Nous sommes en plein combat tout le temps dans notre homme intérieur. Faire ce qui est bien. Ne laisse pas le malin prendre la place pour te faire du mal. Jésus à la croix, il dit, tout est accompli. Amen. Tout est accompli. Merci Seigneur. Tout est accompli. Nous pouvons faire les choses avec lui. Le combat, il a vaincu. Enfin, Esaïe 53, à la fin de votre feuille, là, Jésus, il dit, il n'a pas ouvert la bouche. Esaïe 53, le verset 7. Son silence nous sauve. Son silence nous libère. S'il a parlé une fois, on ne serait pas ici. Il s'est tu. C'est quoi le silence? Je l'ai parlé plusieurs fois. Vous savez, nous, les hommes, on n'est pas silencieux. Hein? Quelqu'un peut être à côté de toi comme ça, il ne parle pas. Il n'est pas silencieux. Hein? La bouche est fermée, mais le cœur commence à parler. Parfois, il dit, ah, regarde, ses cheveux sont bizarres. Et bien, sa tête est compliquée. Nous prenons le bus, le train chaque fois. Dans le train, si quelqu'un fait, parle à haute voix avec son téléphone, on dit, mais il fait des bruits. En fait, ce n'est pas ça qui fait des bruits. Mais quand tu nous ouvres l'oreille pour entendre ce que les gens parlent, à l'intérieur du cœur, tu vois descendre du métro. Dans les métros, il y a trop de bruit, mais qu'on n'entende pas. Les métros ne sont pas silencieux. Le train n'est pas silencieux. Les gens parlent au fond du cœur. Parfois, ton voisin du train te regarde et dit, ah, c'est lui, le Chinois, il est compliqué. Hein? Oh, l'Africain, il est bizarre. Toi, tu ne sais pas. Parfois, tu souris pas, il te parle mal de toi. Mais on ne peut pas l'entendre. Mais Dieu entend tout. Dieu entend tout. Jésus-Christ était silencieux parce qu'au fond de lui, il ne murmurait pas pour mourir pour nous. Au fond de lui, il était disponible pour donner sa vie pour nous. Il l'a fait de l'intérieur et de l'extérieur. Un silence total. De l'intérieur, il le fait. Vous savez, tu peux aider quelqu'un, mais là, tu murmures. Tu peux dire, oh, frère, tu es gentil. Amen, frère. Oh, ce n'est pas amen. Dis, toi aussi, tu m'embêtes beaucoup. Hein? Mais ici, tu dis, amen. Là, tu dis, tu m'embêtes. Ça arrive. Ce qui sort de la bouche n'est pas toujours vrai. Quelqu'un qui est en face de toi, tu peux le sourire. Ah oui, je suis content de te voir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu es silencieux? Un homme dit à sa femme, tu es tellement... Tu ne parles pas, tu es calme là. Oui. Mais pourquoi tu ne parles pas? Oui, je suis silencieux. Sotomas Mera dit, tu n'es pas silencieux, tu parles à l'intérieur. Tu parles trop. Dis ce que tu penses. Non, mais non, ça veut dire non, non, non. Tu parles, là, tu parles des choses. Dis-le. Je m'adresse au marié. Ta femme est silencieuse, c'est suspect. Chère femme, ton mari ne parle pas, c'est suspect parfois. Quand tu le vois comme ça, il ne dit rien du tout. Dis matin au soir, dis-lui, qu'est-ce qui passe, monsieur? Il pense quoi? Quand on ne parle pas, ce n'est pas qu'on est silencieux. On parle beaucoup à l'intérieur. Jésus était silencieux pour que tu sois sauvé. Pour que tu sois sauvé aussi. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a accepté. Il a accepté. Je me souviens une fois, un homme disait, il disait, à la maison, sa femme a fait un repas, il était trop pimenté. Quand tu prends, il faut boire de l'eau, vite, vite. Et lui, bon, ils ont mangé, mais ça piquait tellement. Bon, il dit, et puis il mangeait, il n'a pas dit grand-chose. Sa femme a dit, mais pourquoi tu ne parles pas? Tu sais qu'il y a le piment, mais il dit, bon, c'est bon. Pendant qu'il s'était trop pimenté. Il disait, c'est bon, chérie, c'est bon. Mais il buvait de l'eau chaque fois. Sa femme dit, c'est pas bon. Parce que tu bois trop, il dit, ce que je dis, c'est vrai. C'est bon. Ça vient de là. Il dit, ça vient de là. Et Dieu me voit, je ne mens pas. Ça vient du fond de mon cœur, ce repas est bon. C'est tout. Il y a une phrase qui me fait trembler chaque fois quand c'est que l'apôtre Paul a dit. Cette phrase, mais souvent ça me met à réfléchir. Une petite phrase. Il dit aux Corinthiens cette phrase. Ce que je vous dis, Dieu m'en est témoin, je ne mens pas. Il dit ça aussi aux Philippiens. Ce que je vous dis, je ne mens pas. Parce que ce qu'il a dit était tellement fort que, comme si tu as menti, dit Dieu m'est témoin, je ne mens pas. que nos silences soient celui de la joie et de la grâce pour les frères et sœurs. Amen. Sois vraiment silencieux. Sois vraiment silencieux. À la maison, chère Marie, quand tu es comme ça silencieux devant la télé, sois vraiment silencieux. Hein? Chère femme, devant ton mari, sois vraiment silencieuse. Ne dis pas, regarde-le, avec ses cheveux bizarres. Non, sois content de lui. C'est ton mari, c'est ta femme. À l'église, tu es avec un frère qui est à côté de toi, sois silencieux, bénis-le. Ne pense pas mal de lui. Ça arrive à l'église, un frère dit, ah, lui, je ne l'aime pas trop. Lui, oh, j'aime pas trop ces frères-là. Tu n'es pas silencieux. Quand il entre, ah, il est là, lui aussi, ah, lui. Tu n'es pas silencieux, sois silencieux. Aime le frère, aime la sœur. Tournez votre feuille, il faut qu'on termine vite. L'implication de l'épouse du Christ dans le combat. Ce n'était pas notre combat, Jésus nous a mis dans ce combat-là. Il nous a introduit dans le combat. Être animé et choisi par, être aimé pardon, et choisi par le Christ. Colossiens 2, versets 6 et 7. Il nous a aimés, il nous a unis en lui. Et nous sommes unis en lui et le combat commence. Parce qu'il nous a sauvés, nous sommes entrés dans son combat. Premier trait, la première mission des apôtres, dans Luc et dans Matthieu aussi on en parle. Les apôtres sont partis pour annoncer la bonne nouvelle. Quand vous lisez l'évangile de Luc, et en rentrant, ils étaient tellement contents. Ils disaient, les démons nous sont soumis. C'était génial. Les démons nous sont soumis entre nous. Pour la première fois, Pierre voit qu'il dit, au nom de Jésus, les démons sont soumis. Il dit, oh là là, je suis devenu grand. Ils avaient une joie quand ils sont rentrés voir Jésus. C'est une grande joie. Les démons nous sont soumis en ton nom. L'expérience des apôtres, l'expérience qu'ils ont vécue du pouvoir et de sa puissance, ça les a donné la joie. Jésus leur a dit, c'est pas ça qui fera votre joie. Votre joie, c'est votre nom. Vos noms sont inscrits dans le livre de vie. C'est ça qui fait la joie. Quand tu chasses un démon, tu n'es pas super-héros. N'oublie pas. Quand tu chasses un démon, tu n'es pas super chrétien. Non, pas du tout. Ce qui fait ta joie, c'est que tu es inscrit dans le livre de vie. Chasser un démon, ce n'est qu'un service, ce n'est qu'une grâce que Dieu t'a accordée. Tu peux le faire par la grâce de Dieu. Mais ta joie, ma joie, comme ta joie aussi, c'est être enfant de Dieu. Si tu chasses le démon, tu n'es pas plus que les autres. Pas du tout. Tu ne dépasses personne. Ce n'est qu'une grâce que Dieu t'a donnée. Les apôtres avaient la joie par rapport au service. Notre joie, ce n'est pas le service. C'est l'appartenance à Jésus-Christ. Croire, beaucoup faire à l'église, être fier, là tu fais fausse route. Notre fierté, c'est être appelé enfant de Dieu. C'est ce qui fait notre fierté. Ne dis pas que moi j'ai fait toi l'église, je suis fier, tu te trompes. Dis Seigneur, tu m'as aidé à te servir, merci pour ça. Mais ce qui fait ma joie, je t'appartiens pour l'éternité. C'est ce qui fait ta joie. Nous avons le pouvoir, la puissance par Jésus. Les démons nous sont soumis aussi. Ils nous sont soumis au nom de Jésus. Ils vont obéir. Ils doivent obéir parce que Jésus à la croix, il a vaincu. N'ayez pas peur. Alors, la révélation de l'union du Christ avec nous, Actes chapitre 9, l'histoire de Paul. Quand Paul est tombé par terre sur le chemin d'Emmaüs. Le verset dit, il tomba à terre et entendit la voix qui disait, « Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes ?»« Qui es-tu, Seigneur » demanda-t-il la voix. La voix reprit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Quand Paul menaçait l'église, il touchait l'église. Quand tu touches l'église, tu touches Jésus. On est attaché, on est un avec Jésus. Tu fais mal à l'église, tu fais mal à Jésus. Tu critiques l'église, tu critiques le Seigneur. Tu fais mal d'un frère, tu fais mal au Seigneur. Chaque chrétien est uni en Jésus-Christ. Ne fais pas du mal aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Tu fais mal à son Seigneur. Je le répète toujours là où je vais quand la pensée m'arrive. Mon père est mort il y a longtemps. Un jour au travail, un homme a parlé mal de lui. Il a insulté. Il travaillait dans l'imprimerie. Un homme de paix, il ne voulait pas de problème avec les gens. Et pendant qu'on insultait, ses amis rigolaient. Et un homme qui aimait beaucoup le Seigneur, il n'a pas ouvert sa bouche. C'était humiliant. En rentrant à la maison, il en parlait à maman. Ma mère a dit, mais alors, qu'as-tu fait? Il a dit, mais je n'ai rien à faire. Et puis, il a cité le verset, on te frappe à la joue droite, donc la joue gauche. Il m'a dit, ah,
Papa, c'est quoi cette histoire-là?
Mais réagis quand même, tu es un homme. Il dit, tu comprends que tu connais rien de la Bible. Alors je me suis tué. Il était insulté. Demain, le lendemain, il va au travail. Maman dit, sois fort. Sois fort. Il dit, je ne crains pas car Jésus est avec moi. Il est parti au travail. Nous, on dit, mais ça va encore chauffer là-bas aujourd'hui. Il part au travail, il arrive au travail. L'homme l'a insulté la nuit, il arrive là-bas. Sa main droite a gonflé tellement. Il arrive, il dit, ton Dieu est dangereux. Voilà ce qu'il m'a fait. La nuit, quelqu'un m'a dit, tu parles à l'enfant de Dieu, tu verras ce que je ferai de toi. Et sa main qui devait travailler a gonflé, il n'a pas travaillé ce jour-là. Il a dit, je te demande pardon. Mon père le regardait. Il dit, mais moi je n'ai rien fait. Il dit, mais ton Dieu que tu pries est un Dieu puissant. La nuit, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Alors, je demande pardon, pardonne-moi. Mon père s'est mis à chanter, mon Dieu est grand et puissant. Et il chantait. Toute l'équipe, il travaillait, tout avait peur de lui, mais ne touche pas, il s'appelait Jackson. Ne touche pas Jackson, parce que son Dieu à lui, il frappe les gens la nuit. Mon père a dit, je vais prier pour toi. Il s'est mis pendant la pause, il a prié pour lui, Seigneur, pardonne-lui, c'est pas ce qu'il fait. Si que tu ne connais pas, pardonne-lui, chers amis. Le lendemain, tu es devenu en ordre. C'était un miracle. Son chef était un Belge qui était là, chef d'entreprise un Belge, il a dit, Jackson, qui es-tu? Cette histoire est revenue jusqu'à mon bureau. Qui es-tu? Il dit, mais je suis chrétien, fils de Dieu. Tout ce temps qu'il restait au travail, on avait peur de lui. Parce qu'il a fermé la bouche, il a laissé à Dieu la vengeance. Chers amis, si tu touches un enfant de Dieu, tu as affaire à Jésus. Tu as affaire à lui. Si tu parles mal de chrétien, tu as affaire à Jésus. La Bible dit, si tu aimes Dieu, aime tous ceux qui sont nés de lui. 1 Jean 5, verset 1. Si tu dis que tu aimes Jésus, pourquoi tu n'aimes pas ceux qui sont nés de lui? Si tu aimes Jésus, aime ceux qui sont nés de lui. Ceux qui sont nés de Jésus ne sont pas parfaits. On est tous des pécheurs, des fautifs. Mais Jésus nous aime tels que nous sommes. Si nous commençons à nous entretuer, nous faisons mal au Seigneur. Aimons les frères et sœurs, ne les détruisons pas. C'est un combat terrible. Gardons la victoire avec nous. L'Église participe à la victoire du Christ. Jésus dit ceci. L'apôtre Paul dit, je ne puis que remercier Dieu. Il nous associe toujours au cortège triomphal du Christ par notre union avec lui. Colossiens 2, verset 14. Jésus nous associe à sa victoire. C'est son combat, mais il nous amène avec lui dans ce combat. Quelqu'un est ici, je ne cite pas son nom, lui me sait. Un jour, il traversait un parking avec sa fille. Il aime beaucoup sa fille. Il faisait un peu noir. Lui-même, il avait peur. Ah, il fait noir. Il traversait le parking. Et lui, il pose la question à sa fille. Tu n'as pas peur? La fille dit, j'ai pas peur, papa est là. Papa, il a peur, mais l'enfant n'a pas peur. C'est bizarre. Papa lui dit, mais ah, il fait noir ici, ça va chauffer. Mais la fille, papa dit, mais est-ce que tu as pas peur? Moi, j'ai pas peur, papa est là. Papa, l'enfant dit que papa est là, il est fort. S'il arrive un problème, il va combattre. Ou lui-même, il tremble. Quand ça arrive, Jésus est là. Amen. Oh, amen. Quand ça chauffe, il est là. Quand ça brûle, il est là. N'aie pas peur. Les démons s'acharnent contre toi, il est là. On te crie dessus, il est là. On t'embête, il est là. N'aie pas peur, ne pleure pas. Quand tu pleures, tu n'as rien compris. Quand ça brûle de partout, dis-toi, tu es là. Tu vas t'en occuper. Tu es ma force. Tu es ma forteresse. C'est ton combat. Je regarde vers toi. N'aie pas peur. Satan ne nous aime pas. Il nous combat toujours. Mais nous sommes dans la victoire avec Jésus. Nous sommes derrière lui. Nous marchons dans la victoire. Et nous marchons avec lui. On n'a pas peur. L'annonce de la puissance nécessaire pour l'épouse. Acte 1, verset 8. On arrive à la fin. Et une promesse, Jésus dit, l'Esprit se descendra sur vous et vous recevez sa puissance et vous serez mes témoins. Pourquoi pas de la puissance si il n'y avait pas un combat? Vous aurez la puissance et vous serez le témoin. Ne prêche pas sans la puissance de Dieu. Ne parle pas sans sa puissance. Avant d'aller parler de Jésus-Christ, prie bien. Qu'il donne la force pour parler. Qu'il t'aide à aller prêcher. Qu'il te donne la force qu'il faut pour aller. Il nous faut la puissance, le pouvoir pour vivre le témoignage dans ce monde ici où nous habitons. Il nous donne le pouvoir pour que nous puissions les vivre. Nous sommes des hommes que Dieu a choisis et des femmes, qu'on soit puissants en Jésus-Christ. Sois puissant, ne sois pas faible. Prends cette grâce du Seigneur et sois puissant en Jésus-Christ. Ne dis pas que oui, c'est lui qui est puissant, non pas moi. Non, tout le monde peut être puissant en Jésus-Christ. Aie confiance et sois rempli du Saint-Esprit. On m'a posé la question, pourquoi tu parles en langue? Je ne l'ai pas cherché. Un jour, j'étais parti voir les pentecôtistes. Mon père était un vrai baptiste spécialisé. J'avais mes amis tous pentecôtistes. Un jour, il me dit, tu vas toujours tu vas chez les pentecôtistes. Pourquoi tu vas là-bas? Je dis, papa, ce sont des amis, non? Il dit, ne va plus là-bas chez les pentecôtistes. Mais ce sont des frères, il dit, ne va plus. Mais moi, j'allais toujours en cachette. Et bizarrement, un jour, il priait, j'étais là avec eux. Pendant qu'on priait, il y avait un homme qui est venu là-bas des États-Unis. Il priait pour tout le monde. J'entendais, il parlait de l'effusion d'Esprit Saint. Il dit, c'est quoi l'effusion d'Esprit Saint? Bon, je vais en profiter. J'étais là. On priait pour tout le monde. Et on a prié pour moi. Et il n'y avait rien. Il dit, bon, comme je suis baptiste, bon, je peux l'avoir, c'est pour les pentecôtistes. Je rentre à la maison. Pendant que je priais dans mon coin, Seigneur, merci parce que bon, tu as fait don aux pentecôtistes, c'est pas chez les baptistes. Et pendant que je priais, tout d'un coup, une force est entrée dans ma vie. J'ai commencé à parler en langue. Je dis, mais je parle quoi là? Si ça démarche, mais vite, mais c'est que je deviens fou. Et je voulais pas dans ma langue maternelle, mais l'autre chose qui sortait de ma bouche, des paroles bizarres. Je dis, mais je ne parlais plus. Toute la journée, quand je parle, je dis, mais c'est quoi ça? Mon frère me dit, mais tu deviens fou, qu'est-ce que tu racontes là? Et je ne parlais pas bien toute la journée. Je ne voulais plus parler. Dès que je commence à parler, ça donne des paroles bizarres. Il m'a accordé la grâce de parler en langue. Alors je lui ai dit, si c'est donc qui vient de toi, la Bible dit, de parler en langue, c'est pluriel. Pas juste une seule. Si c'est toi, il y aura la multiplication. Parfois, on pose des questions bizarres au Seigneur. Hein? Et pendant que j'ai prié, ça s'est diversifié. Ça fait longtemps qu'il m'a fait grâce de parler en langue. Et bon, d'autres dons aussi qu'il m'a donné aussi. C'était ça qui commençait ce jour-là. Là, du coup, je ne suis plus pentecôtiste ni baptiste. J'ai changé. Parce qu'il m'a amené vers lui pour comprendre ce qu'il y a. Il nous a donné la puissance. Frères, sœurs, tu as la puissance du Saint-Esprit. Amen. Tu as ça. N'aie pas peur. Ce week-end, dis-toi que je m'appelle Mélodie, je m'appelle Pierre, je suis puissant en Jésus-Christ. Il faut changer que moi, je suis puissant en Jésus-Christ. Il m'a donné l'Esprit Saint, je suis fort avec lui. Je peux aller au combat, j'ai la victoire. Je n'ai pas peur. Dimanche, demain c'est culte ici à Saint-Maur, et aussi à nos gens, et nos églises aussi. Quand vous venez demain à l'église ici, entrez avec force avec le Seigneur. Amen. N'entrez pas tout mou comme ça. Entrez avec force, que je viens ici au nom de Jésus. J'ai l'onction du Saint-Esprit, et Jésus m'a envoyé de son esprit. Entrez avec fierté dans la salle, que nous venons pour adorer notre Dieu. Venez avec joie demain, dans vos églises, et chantez la gloire du Seigneur, car Dieu t'a mis à part. Trois questions. Pourquoi cette puissance? Est-ce que cette puissance est pour toute personne qui croit? Oui. Est-ce que vous voyez les personnes la vivre autour de vous? Je ne sais pas. Est-ce que tu vois les gens autour de toi vivre la puissance du Seigneur? Est-ce que tu les vois? Si tu ne les vois pas, il y a un problème. Que Dieu fasse grâce ici à Saint-Maur, à nos gens, et toutes les églises que nous connaissons, qu'il y ait la puissance de Dieu. Si un jour ici, Pasteur Nguyen est là derrière, Pasteur, si un jour ici, pendant que vous prêchez, et les gens commencent à parler en langue, est-ce que vous allez les garder, vous allez les chasser? Je ne sais pas. Bon. Si un jour le Pasteur prêche, et tout d'un coup les gens parlent en langue, Clément, est-ce que vous allez quitter ou vous allez rester? Ça peut arriver, hein? Et si Dieu fait ça, vous serez content? Oula. Michael, si Dieu fait qu'un jour, ici l'Esprit Saint descend et vous rampez tous et tout le monde parle en langue, tu seras content? Ton oui est peur, ça fait peur. Sylvie, si un jour l'Esprit Saint descend sur toi, est-ce que ton mari sera content? Ah! Tu vas dire, mais Sylvie, tu as changé. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête?
Que l'Esprit Saint descende sur nous, qu'il nous remplisse tous et qu'on soit fort. Car l'ennemi est là, on a la victoire. Et que son Esprit puisse nous conduire, le Seigneur. Lisons ensemble le dernier verset, tous ensemble. Qui est en gras au bas de la feuille. Mais, loué soit Dieu. Qui nous donne la victoire, loué soit Dieu. Soyons l'Église armée et non désarmée. Il y a des églises qui sont désarmées, ils ne peuvent plus. Soyons armés, loué soit Dieu qui nous donne la victoire en Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu, notre Père. 13h01. Oh. Toutes nos excuses, chers amis, on a dépassé largement l'heure qu'on devait terminer. Mais il fallait qu'on prie pour notre sœur à côté qui avait posé la question la dernière. Il fallait qu'on prie pour elle, que Dieu puisse la libérer, elle et son mari. C'était important qu'on prie pour elle. On l'a fait. Je sais que les choses vont s'arranger dans les jours qui viennent. Si on n'a pas de questions, on va prier rapidement pour que chacun rentre à la maison. Mais je vous dis une chose, priez pour le week-end prochain. Priez pour ça le week-end prochain. Parce que le week-end prochain, on ne va pas les choses dans les détails. On va toucher, on va palper la délivrance. On va palper comment faire la délivrance. On va citer ces noms de démons. On va citer leurs œuvres. Alors priez pour ça, préparez-vous. Ne fouillez pas, hein. Soyez là. On va expliquer ça. Clairement ces choses-là. Comment faire quand ça arrive? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? On va expliquer. Que le Christ Jésus, notre Seigneur, nous rende fort. Est-ce qu'il y a une question, est-ce qu'il y en a avant qu'on puisse prier? Bon, on n'a pas la question. On se met debout, on va prier ensemble.
On se tient la main de la main tous pour prier le Seigneur. Et nous, par la main de la main, par rangée, on se met par la main de la main, par rangée, nous allons prier ensemble. C'est notre prière de foi, de communion. Nous qui sommes l'armée du Seigneur, que Dieu nous soutienne. Que Dieu nous fortifie notre pouvoir parce que ce combat est sérieux. Qu'il vienne nous soutenir. On a besoin de nous. On va chanter un chantier qui connaît, chante avec moi. Je suis fort que aussi. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon Sauveur, je suis fort, fort, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon Sauveur, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon Sauveur, je suis fort. Choses qu'on puisse bénir, c'est ce qui se passe au milieu de nous. Pour le bien